Le livre de Jonas. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. On ne va pas lire le livre en entier, hein. Il y a 4 chapitres, 48 versets. Donc vous pourrez le lire et vous pourrez suivre au fur et à mesure que je citerai les versets. Mais en fait, c'est vrai que cette histoire de Jonas est certainement une des plus connues, hein, de la Bible, hein, avec le poisson qui avale Jonas. On s'est beaucoup moqué de ça. Mais quand on y réfléchit, qu'on regarde un peu plus près, c'est pas si moquable que ça, je peux vous le dire. Ce livre tout particulier, il se trouve au milieu des petits prophètes, du recueil des petits prophètes, et qui termine l'Ancien Testament. Et ce livre est assez bouleversant. Hein, quand vous le lisez, à la fin des 4 chapitres, hein, des 48 versets, on a l'impression d'être passé dans une lessiveuse. Hein. On a perdu un peu ses repères. Et j'ai noté quelques particularités ici que je vais vous dire. Dans ce petit livre, donc, on trouve, tenez-vous bien, hein, des païens qui croient et un prophète de Dieu qui refuse de croire. On trouve bien sûr le grand poisson qui avale un humain, le garde 3 jours dans son estomac, dans son ventre, puis qui le vomit sur la plage de nouveau. On trouve un prophète d'Israël envoyé vers une nation ennemie, et la pire des ennemis, pour l'aider à éviter sa destruction. On voit une ville sanguinaire, hein, on en avait parlé, hein, quand j'avais traité de Naoum, hein, la Ninive, la capitale de la Syrie. C'était une ville sanguinaire, pleine de violence, hein, d'un peuple violent. Et on voit cette ville se convertir en un seul jour. Et puis on voit aussi, pour finir le livre, on voit un arbre qui pousse en un jour et qui meurt le lendemain. Donc c'est assez surprenant. Et c'est bien là l'objet de ce texte. L'objet de ce texte, c'est de bousculer, de nous réveiller, d'exhorter. Alors d'exhorter qui? Ben, en premier, Israël, bien sûr, hein, qui ce texte est adressé en premier lieu. Mais au-delà de cette exhortation, bien sûr, cette exhortation s'adresse à nous qui lisons ce texte aujourd'hui. Est-ce que ce texte se trouve sous nos yeux par hasard? Alors j'aime bien citer, quand on parle de hasard, j'aime bien citer cette petite phrase, hein, qui est d'un grand connaisseur de l'univers. Hein. C'est le hasard, ben, c'est Dieu qui se promène incognito. Hein. Ou le hasard, ben, c'est Dieu qui ne signe pas, hein, qui reste anonyme. Donc non, je ne veux pas que ce soit un hasard, parce que nous avons besoin, bien sûr, d'être nous-mêmes remis en question dans les certitudes que nous nous construisons si facilement. Soit pour nous mettre à l'abri, nous rassurer, ne pas prendre de risques trop excessifs, ou alors soit quand la marche continue, qui est la vie chrétienne, finit par finalement nous fatiguer. Est-ce pour rien que l'apôtre nous rappelle ou nous parle du péché qui nous enveloppe si facilement, ou nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent? Non, ce n'est pas pour rien, je ne pense pas. Ce sont là les obstacles qui peuvent ralentir, voire arrêter notre course dans le chemin qui a été ouvert, la carrière, hein, comme dit la parole. Notre ardeur dans le combat de la foi dont nous parle l'apôtre. Alors, je vous invite à chercher avec moi l'exhortation dans ce livre de Jonas. Et pour cela, nous considérerons un peu trois parties. Nous verrons, nous intéresserons un peu à la personne de Jonas, puis à la nature de ce texte. Et surtout, bien sûr, à l'intérêt de ce texte dans l'histoire du salut. Quel intérêt, quel sens a ce texte pour les Israélites, mais pour nous, bien sûr, aussi, dans le plan du salut. La personne de Jonas, pour la personne de Jonas, la question qui s'est posée, c'est bien sûr, quand on a lu le texte où il y a tant de choses invraisemblables, on se demande, la question qui a été posée, c'est est-ce que c'est un personnage réel ou un personnage fictif? Et là, on a une réponse sûre qui est dans la Bible elle-même. Le fait qu'il soit nommé au verset 1, fils d'Amittai, hein, dans le verset 1, il est présenté comme ça, fils d'Amittai, nous permet de l'identifier sans doute possible avec le prophète qui est mentionné dans un livre qui se trouve un peu avant, dans 2 Rois 14-25. dans 2 rois 14-25, que je lis ici, on lit « Jéroboam rétablit les bornes d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il avait prononcée par son serviteur Jonas, fils d'Amittai, le prophète qui était de Gath-Hépher. » Voilà, donc on sait que Jonas, c'est ce prophète qui vivait du temps de Jéroboam II, ce roi d'Israël. On est là autour de 800 avant Jésus-Christ. Et donc il était originaire de Galilée. Ce qui fait mentir les juifs du temps de Jésus qui disaient « Mais pourrait-il sortir un prophète de Galilée ?» Eh bien si, il en est sorti, hein. La preuve ici. Hein. La géographie nous dit que le bourg de Gath-Hépher appartient à la tribu de Zabulon qui était installée en Galilée. On sait aussi que par ce rapprochement, c'est ce prophète que Dieu a utilisé donc pour annoncer à Israël le relèvement territorial qui va y avoir du temps de Jéroboam II. Alors, le contexte historique concorde aussi avec ce qui nous est dit ici. Hein. Le royaume de Samarie avait bien des relations avec la Syrie, on le sait par l'histoire. Et dans les années qui ont précédé le règne de Jéroboam, d'ailleurs, on sait que le roi Jéhu, son bisaïeul, son arrière-grand-père, avait déjà payé le tribut au roi d'Assyrie. On sait aussi, par ailleurs, que les provinces d'Amon et de Moab, qui sont à l'est du Jourdain, et là, je vais peut-être essayer de... C'est là que je voudrais... Ah, voilà. Donc, un dessin vaut mieux qu'un grand discours. Donc, vous voyez les territoires de Moab et d'Amon, qui sont à l'est du Jourdain, donc avaient été pris du temps de Jéhu par le roi d'Aram, hein, la Syrie, juste au-dessus, Damas. Et donc, ces territoires, du temps de Jéroboam, ils ont été repris par Jéroboam, et ils ont été repris parce que Jonas, enfin parce que, en tout cas, Jonas a été le prophète qui a annoncé ça, hein, qui a incité le roi Jéroboam à faire cette conquête. Il l'a fait avec succès, et il a ramené Israël dans ses frontières presque du début. Hein. Donc c'était un moment où Israël était très faible, et Dieu les a secourus en leur permettant de regagner ces terres-là. Voilà. Je ne vous fasse pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Hein. Voilà, donc on connaît l'existence historiquement de ce Jonas. Ce n'est pas un personnage fictif, c'est bien un personnage réel qui a existé. Donc on va voir maintenant quelle est la nature du texte, et là aussi c'est pareil, hein. La question qui s'est posée, c'est de savoir si ce texte était réel ou était fictif, hein, finalement. Alors, bien sûr qu'au début, les Juifs comptaient ce livre comme étant réel, étant une histoire réelle, mais c'est la critique libérale du 19e siècle, hein, après le siècle des Lumières. Vous savez qu'il y a eu une critique assez acerbe de la Bible, et ces gens qui avaient pris pour Dieu la raison, en fait, hein, ont voulu expliquer la Bible en sortant tout ce qui était miraculeux, en évacuant tout ce qui était miraculeux. Et effectivement, comme dans le texte de Jonas, ben, pratiquement tout est miraculeux. Donc effectivement, on a dit que c'est un texte fictif, hein, c'est une histoire racontée, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Sauf qu'effectivement, quand même, ces interprètes libéraux, c'est pour certains, ont quand même temporisé la chose, parce qu'ils sont bien rendus compte qu'effectivement, le récit complètement fictif n'existe pas dans les temps anciens. Hein. Ce n'est pas dans l'esprit des anciens, ce n'est pas dans l'esprit des juifs d'inventer comme ça de toute pièce un texte, une histoire. Il y a toujours, ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours une base historique, des faits réels, un texte ancien. Donc les anciens partaient toujours de faits réels. À la limite, le rédacteur de Jonas a un peu extrapolé mais pour donner son enseignement. Mais ceci dit, la réalité de l'histoire ne peut pas être contestée. Alors en tout cas, pour nous chrétiens, elle n'est pas contestable pour la bonne raison que Jésus y a fait référence lui-même. Jésus a validé cette histoire. En Matthieu 12, 38, 41, je lis. Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » On voit que Jésus, ici, dans ces quelques lignes, fait référence à la prédication de Jonas, il fait référence à la conversion des Ninivites, et surtout, il fait référence à ce séjour de Jonas dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, et il met ça en parallèle avec ce que lui-même va vivre. On a vraiment du mal à imaginer quand même que Jésus, pour parler de ces choses essentielles et à venir, se base sur un récit fictif, des choses qui n'ont pas existé. Non, c'est très difficile à imaginer, et je pense que ce texte auquel Jésus, cette histoire auquel Jésus se rapporte avec beaucoup d'insistance en plus, il y a peu d'histoires auxquelles il se rapporte aussi fortement. Il mentionne la prédication, il mentionne la conversion d'une ville qui peut nous paraître quelque chose d'assez étonnant. Hein. Toute une ville comme ça, une grande ville qui se convertit en un jour, des Ninivites qui sont des gens violents et loin de Dieu. Hein. Et Jésus fait référence à ça, il en parle. Donc pour nous, effectivement, c'est l'élément décisif. Donc cette histoire de Jonas, il n'y a aucun pour nous sujet de la contrarier, de dire qu'elle n'est pas vraie. Elle est vraie, elle est extraordinaire, et elle est le fait de notre Dieu. Et si le Seigneur voulait trouver quelque chose pour nous réveiller, je crois que là, il a trouvé quelque chose. Alors, on va en venir donc au sens du livre. Au sens du livre, parce que ce livre... quand on lit effectivement la parole, quand on lit un livre comme ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il se place dans l'histoire du salut, comment il nous encourage dans le plan du salut. Quel est son poids dans ce livre, dans l'histoire du salut, quelle est son utilité, qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple avec ce livre, hein? Parce que Dieu veut nous parler dans sa parole. Alors, dans le contexte de l'époque, il y a plusieurs points qui peuvent interroger, et j'en ai noté ici 4. Premièrement, c'est l'idée de la miséricorde de Dieu qui s'étend au-delà d'Israël à tous les peuples. Il y a cette idée, elle est par ailleurs dans l'Ancien Testament, on verra tout à l'heure, mais là, ici, elle est très accentuée, elle est très mise en avant, on va voir comment et pourquoi, Deuxièmement, ce qui peut nous interroger, c'est la voix d'un prophète de premier plan en Israël pour avertir les Ninivites afin de leur donner la possibilité du salut, de la repentance et du salut. Et en fait, c'est étonnant parce que cette grâce extraordinaire n'est pas accordée à des païens quelconques. Elle est accordée donc à la capitale du monde des gentils à l'époque. Ninive représentait... l'emblème de toutes les abominations, païennes en particulier, c'était une opposition violente contre Israël et donc contre le règne de Dieu. Ninive était une ville, la Syrie était un peuple, comme on l'a dit, très violent. Et on avait parlé, quand j'ai parlé du livre de Nahum, des méthodes qu'ils avaient pour faire la guerre, la guerre éclair, c'était de. Prenaient les gens, ils déboulaient comme c'était très organisé, ils déboulaient avec leurs chevaux, leurs chars, leurs archers, et c'était une prise immédiate de, et puis c'était de tuer tout le monde et pas beaucoup de prisonniers. Hein. Donc c'était d'ailleurs quand on a retrouvé un peu des ruines de Ninive sur les murs, sur ces grands murs, c'était une ville immense, on voit ça, un tornée de scènes de guerre. Hein. Donc on sait que ce peuple était violent, et voilà que Jonas s'est envoyé vers cette ville et pour annoncer le salut. Alors on comprend sa réticence. Hein. Vous savez que Jonas il a été assez réticent. Hein. Il est même parti dans le sens inverse. Hein. Alors on a dit c'est parce qu'il a eu peur, etc. Mais en fait c'est faux. Hein. Peut-être qu'il a eu peur, je ne sais pas. Je ne pense pas parce que la raison nous est donnée à la fin du livre. Et on va la voir. Hein. On va la voir. Et puis un dernier point, c'est que on voit que la grâce de Dieu dans ce livre s'étend jusqu'aux petits enfants. Quand vous lirez là, au chapitre 4, on voit ça. Ça s'étend jusqu'aux petits enfants et même jusqu'aux animaux, parce que dans le dernier verset du livre, Jonas chapitre 4 et verset 11, on lit ceci. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. On voit que d'ailleurs un peu avant dans le livre, on voit que les animaux aussi sont invités à se rouler dans la cendre, etc. Et donc c'est étonnant, mais je pense que ça marque effectivement la miséricorde de Dieu sans limite. Assurément, il n'y a là rien de contraire, en tout cas, à la vraie notion de Dieu telle qu'elle est présentée dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Et notamment, en rappelant ici la promesse que Dieu fait dès le début à Abraham. En Genèse 12, 3, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudissent, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc c'est dès le début. C'est dès le début que c'est annoncé. Et dans le livre de Jonas, cette miséricorde sans limite de Dieu qui va être annoncée, qui est soulignée avec force, sans égal par ailleurs. Et surtout, nous allons voir avec une surprenante singularité. C'est vrai que Dieu nous parle ici de sa miséricorde qui s'étend à tous les êtres d'une façon très très singulière. Avec cette histoire de Jonas, cet homme qui refuse de rentrer dans ce plan-là, c'est souligné très fortement. Même si la miséricorde de Dieu qui s'étend à tout le monde est signalée dès le début des temps, hein, dès l'appel d'Abraham. Mais ici, ça va être souligné avec une singularité. J'ai mis le mot singularité, mais c'est exactement ça. C'est de toute façon très singulière. Car sur ce fond lumineux de la miséricorde de Dieu, qui embrasse tous les êtres, se détache ici la figure très sombre de Jonas l'Israélite. Alors parlons un peu de cet homme et de ce qui le caractérise. Alors en premier lieu, j'ai noté trois points ici. Donc, mais un premier point, c'est que cet homme accepte volontiers, ce prophète même, hein, accepte volontiers pour lui-même les soins de la bonté divine. Mais on conteste que cette bonté de Dieu s'étende aux païens. Hein. C'est dans sa prière, au chapitre 2, au verset 7, on le voit se réjouir de ce que Dieu a fait pour lui. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » L'Éternel, éternel, mon Dieu. Donc, c'est son Dieu. Hein. Il insiste bien, éternel, mon Dieu. Mais quand Dieu fait grâce aux habitants de Ninive, hein, vers la fin du texte, on voit que Dieu va faire grâce, il nous est dit au chapitre 4 et verset 1, Dieu vit qu'il agisse. J'ai commencé au chapitre 3, verset 10, et je finis au chapitre 4, verset 1. Donc, Jonas 3, 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Donc, c'est la deuxième fois où Jonas retourne à Ninive, hein, parce que la première fois, on va le voir, il a refusé d'y aller. Mais mais Dieu a su le convaincre d'y retourner. Hein. Donc la deuxième fois, il a compris qu'on ne pouvait pas trop résister au commandement de Dieu. Il va y aller et il va se passer ce qu'il craignait, c'est que les Ninivites vont se repartir, vont faire demi-tour. Et donc c'est ce qui est marqué ici. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne leur fut pas. Et au chapitre 4 et verset 1, on lit ceci. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il s'est fâché contre Dieu. Et c'est un prophète hein, de Dieu. C'est un livre, je vous dis, c'est un livre assez étonnant et assez renversant. Et on verra d'ailleurs qu'à la fin, on se posera la question, on peut déjà en parler maintenant, hein. Peut-être c'est l'idée qui vous vient à l'esprit, c'est comment ce livre se retrouve dans le canon des Juifs, hein, le canon israélite. Si ça avait été fait, pour bien, j'anticipe un peu sur la conclusion, mais j'ai tellement envie de le dire, si c'est des hommes qui avaient fait le canon, qui avaient réuni les textes sacrés des Juifs, est-ce que vous croyez qu'ils auraient mis ce texte-là, qui les met à l'index, hein, qui montre leur résistance et leur rébellion. Je ne crois pas. Donc on verra. Donc il se fâcha. Il s'est fâché contre Dieu. D'ailleurs, il est tellement irrité par la possibilité que Dieu puisse accorder sa grâce à des païens, qu'il va se soustraire à la mission dont Dieu le charge. Hein, c'est l'objet du livre. Dès le début, donc Jonas 1, au verset 1, on lit ceci, qui est aussi très étonnant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, donc on l'a dit tout à l'heure, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva. Et il se levait pourquoi? Pour aller à Ninive? Non, vous savez, hein, puisque l'histoire est bien connue, non, il ne s'est pas levé pour aller à Ninive. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppé, c'est un port, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On voit là que, je pense que, je ne l'ai pas mis, mais il veut s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Alors Jonas c'était un homme qui craignait l'Éternel, c'est marqué un peu avant dans le chapitre 2, c'est un homme qui craint l'Éternel, c'est un homme qui le connaît, hein, parce qu'il dira, hein, il citera ce passage, oui je savais que tu es miséricordieux, lent à la colère, etc., qu'on retrouve bien avant dans l'Exode plusieurs fois, hein, Dieu se présente comme ça, miséricordieux, lent à la colère, compatissant, et donc il le connaît, mais il a une limitation. Et on s'aperçoit qu'il pense qu'il peut s'éloigner loin de la face de Dieu en partant loin d'Israël. Alors j'ai réfléchi à ça et je me dis qu'effectivement là, Jonas il était influencé par le siècle présent. À son époque, effectivement, chaque pays avait son Dieu, chaque famille avait son Dieu, et pratiquement chaque personne avait son Dieu, hein, qu'on gardait bien dans sa poche, hein, et voilà, et c'était son Dieu. Et bien sûr, c'est pas le cas de l'Éternel, hein, qui est le Dieu, hein, le Dieu de l'univers. Mais certainement, Jonas était encore en train de penser dans ces pensées-là, et c'était son Dieu. Hein, et donc, c'est son Dieu, il avait un territoire limité, Israël, et puis il suffisait de partir un peu plus loin pour être débarrassé de Dieu, de l'Éternel. Mais bon, il va s'apercevoir que c'est pas le cas. Hein. Donc il va peut-être ici apprendre une leçon, quoique il n'apprendra pas facilement. Hein. Donc on voit ici en plus la détermination de Jonas, hein, à contrarier le plan de Dieu. Il part très loin, et même il nous a précisé qu'il paye le transport. Et vous allez voir, voilà. Donc Ninive se trouve au nord-est d'Israël, hein, quelques 800 km quand même, et lui, donc, il décide de partir dans le sens opposé, à l'ouest, à Tarsis. Tarsis est dans le sud de l'Espagne, et c'était à l'époque, d'ailleurs, la limite du monde pour les Hébreux. Hein, c'était la limite pour eux. Après, ils ne savaient, savaient plus ce qu'il y avait. Mais c'était donc l'extrême du monde. Et lui, il décide de partir donc en sens inverse et à l'extrémité du monde connu. Donc on voit vraiment l'obstination de Jonas. Et il est prêt à payer, donc il est prêt à payer le déplacement, ce qui doit pas être une somme assez conséquente, hein, parce qu'il y avait 3800 km à faire, hein, pour aller jusqu'à Tarsis. Donc c'est vraiment quelqu'un de déterminé, hein, voilà. C'est assez étonnant pour nous, hein, c'est assez étonnant pour nous qui connaissons la suite des choses, qui connaissant la pensée de Dieu, mais effectivement, à cette époque-là, elle n'était pas aussi bien connue. La révélation, aujourd'hui, ça nous paraît simple de croire que Dieu est venu au milieu des hommes, qu'il s'est laissé crucifier, qu'il est ressuscité et retourné à Dieu, et qu'il nous a envoyé l'Esprit. Ça nous paraît assez simple. On entend tellement parler, ça n'a pas été si simple pour Dieu de nous faire comprendre, de nous faire saisir. La révélation, elle s'étale sur plusieurs milliers d'années. Dieu a eu de patience avec nous, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que Dieu a eu de patience avec nous. Et avant qu'on arrive à comprendre ce que Dieu a fait pour nous, a voulu faire pour nous, effectivement, il a dû sortir, il a dû émettre des trésors de pédagogie. Des trésors de pédagogie, et je pense que le livre de Jonas, en ce sens, est vraiment un trésor de pédagogie. Hein. C'est pour les Israélites, certainement, ce qui est pour leur faire comprendre que le miséricorde de Dieu n'était pas juste pour Israël, et pourquoi pas pour nous aussi, hein, pour nous aussi, parce que on ne conçoit jamais Dieu dans sa totalité, et on a besoin que, effectivement, cette miséricorde qui s'étend à tout le monde, tout l'univers même, à tous les êtres en tout cas, eh bien, nous soit rappelé régulièrement. Et ce livre de Jonas, je pense qu'il sert à ça. Alors, on note bien sûr là les traces d'un violent conflit, hein, à cette époque entre la pensée nationaliste juive, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, Quand j'ai travaillé à la Caisse d'Épargne, je travaillais avec une dame qui était juive et qui se revendiquait juive, hein, et qui se revendiquait d'être du peuple élu. L'esprit existe toujours, hein, pour certains. Et la pensée divine universaliste, pourtant exprimée déjà au tout début à Abraham. Hein, j'ai cité le Genèse 12:3 où il bien dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu annonce la couleur dès le départ. Les Juifs n'ont pas voulu trop l'admettre. Hein. Et d'ailleurs, jusqu'au temps de Jésus, ils ne l'admettaient pas toujours. Hein. Quand on lit dans l'acte, ils l'admettaient pas toujours. Je n'ai pas noté les passages, mais peut-être après. On va voir. Donc, cette pensée divine de la miséricorde qui s'étend à tous les êtres, elle a été dite à Abraham dès le départ, mais elle a été aussi répétée par les prophètes régulièrement, hein, notamment Ésaïe qui a prophétisé sur l'avenir justement des ennemis d'Israël, hein, l'Égypte et la Syrie, et Israël aussi, et qui dit dans cette prophétie, qui parle des temps à venir, il dit en Ésaïe 19, il dit en ce même temps, et il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc on voit bien là la pensée miséricordieuse de Dieu qui s'étend vraiment à tous les êtres, à toutes les nations. Et quand on voit l'Apocalypse, effectivement, on sait que tout va être réuni. Dieu arrivera à ses fins, et bien sûr, unira dans la louange pour lui tous ces peuples-là qui sont pour l'instant en train de s'entretuer. C'est à cause de cette opposition, d'ailleurs, obstinée, que le peuple juif se verra, pour un temps, écarté du plan de Dieu pour le monde. D'ailleurs, j'ai noté, donc ici, c'est bien ce qui me semblait, j'ai noté acte 22, on l'a lu il n'y a pas très longtemps dans les études, et c'est là que je l'ai noté, d'ailleurs, et on voit que cette opposition au plan de Dieu, elle était encore du temps des actes, elle existait encore. Un acte, et on va le voir ensemble, un acte 22, verset 21-22, donc, alors, il dit ceci, « Alors il me dit, va, je t'enverrai loin vers les nations. » C'est l'apôtre Paul, en fait, qui retourne de son troisième voyage et qui parle au peuple hébreu qui est là. Hein, on lui laisse la possibilité de s'expliquer, alors qu'eux, ils veulent le tuer. Et donc, lui, il s'adresse à eux et il déroule tout ce que Dieu a fait pour lui, comment Dieu l'a appelé, etc. Et puis, il arrive à acte 22-21 où il leur dit, Dieu me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Alors, jusqu'à maintenant, les Hébreux l'avaient écouté, c'était un peu lent, hein, il a expliqué sa conversion, les détails, etc. C'était un peu lent, ils l'ont écouté dans un silence religieux. Mais quand il arrive là et qu'il dit, il me dit, va, je t'enverrai vers les nations, la réaction est assez brutale, et au verset 22, tout de suite, hein, c'est immédiat, on lit, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, donc ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, là, ce que je viens de dire, mais alors, ils élevèrent la voix, disant, « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Donc ça les a, l'idée que le salut soit annoncé aux nations, ça les a révulsés. Hein. Donc il dit « faut le tuer ». C'est le gars qui dit ça, « faut le tuer ». Donc l'opposition était encore là. Elle était forte. Hein. Et donc, ouais, elle était très forte. Et donc, effectivement, le livre de Jonas, qui avait été certainement là pour réveiller Israël, il n'avait pas fait tout à fait son efficacité. Hein. Il avait laissé de côté. Les Juifs n'avaient pas vraiment écouté. Hein. Donc, ils étaient encore dans cette pensée qu'effectivement, le salut était réservé pour la nation d'Israël. Mais bon, je pense qu'il y a encore des mouvements au sein du peuple juif qui pensent cela. Hein. La particularité du livre de Jonas, en tout cas, c'est que cette opposition est exprimée très fortement, on l'a dit, très singulièrement. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas exprimée par un membre quelconque du peuple de Dieu. Elle est exprimée par un serviteur de Dieu. Par un serviteur de Dieu, par un prophète, par un porte-parole de l'Éternel, qui s'oppose comme ça au plan de Dieu. On pourrait s'attendre à ce qu'un prophète soit plutôt... Mais non, ce prophète-là, il s'oppose au plan de Dieu. Donc ça souligne encore l'importance du sujet. Et alors, on en vient à la question que je vous posais tout à l'heure. Dès lors, comment comprendre que dans l'Ancien Testament, au cœur même de ce recueil des livres prophétiques, hein, le recueil des 12 prophètes ici, se trouve un écrit où un tel rôle est attribué à un tel homme, à un tel personnage, un prophète. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Pourquoi ce livre, au milieu des livres prophétiques, ce livre est là, ce livre qui finalement stigmatise la résistance du peuple. Alors le message, je pense que le message est clair, c'est que ce message, c'est celui-ci, c'est que même porté par un prophète d'Israël, cette limitation de la grâce divine n'est pas validée par Dieu, bien sûr. Hein. Donc c'est ce que Dieu a voulu montrer avec ce texte extraordinaire, très fort, où il y a des choses très très fortes, mais je crois que c'était nécessaire, hein. Tellement la résistance était opposée, hein, puisqu'on voit qu'elle vient même d'un prophète de Dieu. Donc, Dieu ne valide pas ça. Hein. Dieu n'est pas le Dieu. Dieu n'est pas le Dieu d'un groupe. Et puis ça peut nous concerner aussi, hein, parce que ce texte est assez ancien. C'est pour Israël, mais on peut aussi le prendre pour nous. Mais ça, c'est que la miséricorde de Dieu n'est pas réservée à un groupe, Donc, elle n'est pas, on peut dire par exemple, elle n'est pas validée, elle n'est pas réservée à Israël, bien sûr. C'est ce que enseigne le texte de Jonas. Mais dans une perspective chrétienne, elle n'est pas non plus validée pour nous, pour l'Église. Elle n'est pas validée pour un groupe, par exemple notre Église. Ou un individu, une personne, par exemple moi. Mais ça peut arriver, hein, je pense. Hein. Si on examine notre pensée, on prend la personne qui. On pense à la personne qu'on n'aime pas vraiment, on n'aime pas ses manières, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Il y a des gens comme ça. Et dites-vous, oui, mais la grâce de Dieu est pour lui aussi. Le salut est pour lui aussi. Et il faut que lui parle de Jésus. Et vous verrez si ça peut nous concerner. Ça peut nous concerner. Que Dieu nous en préserve, mais ça peut nous concerner. Et là, c'est la grande leçon de ce texte. Si elle avait été comprise par le peuple de Dieu, par Israël, ça lui aurait évité certainement, ce que j'ai noté ici, le poison de l'esprit pharisaïque, hein, le poison de l'esprit pharisaïque, et toutes les tribulations qui ont découlé. Vous savez, l'esprit pharisaïque, c'est symbolisé par ce pharisien qui est dans le temple, il y a le publicain à côté, il dit, voilà, je te rends grâce de Dieu, de ce que je suis, etc. C'est ça l'esprit pharisaïque. Hein. C'est un peu ça qu'on retrouve ici. C'est Dieu pour moi et les autres. Et on sait que ça a valu au peuple de Dieu, à Israël. En contrepoint d'ailleurs, on parle d'Ésaïe, et en contrepoint de ces prophéties universalistes, Ésaïe nous parle aussi d'ailleurs de cet Israël comme le serviteur de Jéhovah, je cite, sourd et aveugle, qui refuse de comprendre le passé de son Dieu. Et qui, par sa résistance au plan divin, va finir d'ailleurs par s'exclure, du moins temporairement, du salut qu'il ne veut pas voir accordé aux païens. En Ésaïe 42,19, on lit d'ailleurs ce verset, d'où j'ai tiré ces paroles, Ésaïe 42,19. Dieu dit « Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Voilà, c'est un verset, ça, qui pourrait faire une belle épigraphe au livre de Jonas, n'est-ce pas? Ésaïe exprime là le sentiment amer de mécontentement qu'Israël éprouve à l'égard des plans de miséricorde de Dieu envers le monde païen. Sentiment d'ailleurs qui ne fera, comme on a dit tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, sentiment qui ne fera que s'accentuer au sein du peuple de Dieu tout au long de son histoire. Hein, on a vu que dans Actes, c'est ça qui a choqué les Israélites. Quand Paul leur a dit « je veux annoncer ça aux nations », et tout de suite, la sentence est tombée, mais non, c'est pas possible, il faut arrêter cet homme. Donc ça a perduré tout au long de son histoire. Et une étape importante, ça sera le livre de Malachie. Cette amertume, là, d'ailleurs, elle va éclater. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, ça tombe bien. Et ça va être un feu d'artifice d'amertume. Voilà jusqu'où cette résistance va mener les Israélites. Et Malachie, le prophète Malachie, va nous rapporter les paroles des Juifs de ce temps-là. Et vous allez voir que l'amertume contre Dieu, le ressentiment qui est soulevé par le fait que Dieu veuille annoncer sa miséricorde à d'autres nations, va aller loin. Malachie 2,17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, à quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Malachie 3, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel, des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Parole méchante s'il en est, hein. Méchante s'il en est. Dont nous devons, bien sûr, absolument nous garder, tant elles sont offensantes pour Dieu, et tant les conséquences sont terribles pour nous. Hein. comme on le verra pour le peuple de Dieu, ce sera cet esprit rebelle d'ailleurs, cet esprit rebelle et méchant, qui 400 ans plus tard crucifiera le Christ, lapidera Étienne, persécutera Paul, tous les envoyés de Dieu, entraînera la séparation de l'église et de la synagogue, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a eu une séparation. L'église, c'est ceux qui portent le message de la miséricorde de Dieu aux nations, et la synagogue, c'est ceux qui se sont repliés sur effectivement le Dieu, l'unité d'Israël, entraînera finalement la ruine d'Israël, et c'est l'écueil, et bien sûr, c'est l'écueil fatal pour le peuple de Dieu. C'est l'écueil fatal pour le peuple de Dieu. Le livre de Jonas est là pour le lui signaler, comme ne le fait aucun autre texte. La miséricorde de Dieu est bien signalée, ici et là, Dieu ne cache pas. Mais ce texte-là souligne de façon extraordinaire ce projet de Dieu qu'il veut partager avec toutes les nations. Mais donc c'est un signal vraiment pour Israël, mais je vais ajouter, bien sûr, c'est un signal pour nous, pour nous, afin que cet écueil ne devienne pas le nôtre. Il faut faire très attention à ça. Je pense que si ce livre est là, c'est bien pour ça, pour nous réveiller de ce point de vue, la miséricorde pour le monde entier. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'appel de Jésus à nous envoyer vers les autres, et c'est ce qui justifie le fait que nous devons mourir aussi à nous-mêmes, parce que si vous ne mourrez pas à vous-même, la miséricorde de Dieu ne se répand pas. Si on vit encore un peu pour nous-mêmes, elle est retenue quelque part, elle est retenue. Donc c'est bien pour ça que la parole dit il faut que mourir à soi-même, c'est-à-dire s'oublier complètement pour se donner pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. Et là, on peut confesser que on n'en est peut-être pas là. Ce n'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Il y a une difficulté à s'arracher de soi-même, pour reconnaître. Mais une fois reconnu, c'est une grâce, parce qu'on peut prier pour ça, on peut prier les uns pour les autres. On peut demander sa grâce au Seigneur, voilà. Et il le fera. On dit déjà pas mal de choses, mais il y a bien plus que cela dans cet étonnant livre de Jonas. Pour avoir un point positif, Dieu nous annonce déjà en filigrane comment il va dépasser cet obstacle, cette réticence de son peuple à entrer dans ses desseins. Oui, parce que Jonas va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Il va être arrêté dans sa fuite à Tarsis, il va y avoir une tempête, et donc, je vous passe les détails, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais il va être jeté à la mer et recueilli donc, dans l'estomac d'un grand poisson. Et donc il va passer là 3 jours et 3 nuits, comme une expérience de mort et de retour à la vie, faisant de lui pour un moment, parce que juste après il va partir pour Ninive, il va accepter l'ordre de Dieu, et donc pour un moment il va être ce nouvel homme capable de répondre à la mission confiée par son Dieu en devenant l'instrument de salut pour Ninive. Par là, Jonas devient l'image un peu de cet Israël voulu par Dieu, répondant à sa mission en procurant le salut au monde. Mais plus particulièrement, il devient le représentant anticipé en fait de l'Israélite parfait qui, après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, va ressusciter pour que soit prêché par la bouche de ses envoyés la repentance et la rémission des péchés au monde païen tout entier. Donc il y a là au beau milieu de ce livre bouleversant à plus d'un titre, un filigrane, les mystérieuses perspectives de l'avenir d'Israël, du Messie, du règne de Dieu, qui sont là comme une plante dans la graine. Tout est annoncé ici. Et d'ailleurs, Jésus va s'en servir. On a lu tout à l'heure le passage. Il va bien s'appuyer là-dessus pour parler de lui et donc annoncer effectivement ce qui va se passer. Et voilà comment Dieu prépare son peuple, comment Dieu nous prépare à recevoir cet extraordinaire point où Jésus va venir pour nous sauver finalement et ressusciter. Et on parlait tout à l'heure de son retour. que comme ces choses sont, on peut s'appuyer sur ces choses, elles sont vraies, et effectivement, son retour pour nous est pratiquement sûr, est sûr. Hein? Nous qui connaissons toutes ces choses, son retour est sûr. Hein? Mais à bien y réfléchir, c'est quand même un livre surprenant. Hein? Mais à bien réfléchir, j'ai noté, mais à bien y réfléchir, il y a encore un autre point qui paraît presque aussi surprenant que l'existence même de ce texte, c'est, on a touché un mot tout à l'heure, c'est son admission dans le canon de l'Ancien Testament. En effet, on peut se poser la question, comment des savants juifs qui ont réuni en recueil sacré les livres régulateurs de la pensée religieuse juive, ont-ils pu y inclure celui-ci qui renferme effectivement la plus amère critique de leur esprit national s'opposant au plan divin? Il y a un mystère. Le canon a été formé au 1er siècle, hein, le canon juif. Donc comment ces savants juifs qui ont formé ce canon, qui ont réuni au 1er siècle, ont réuni ces textes-là pour dire, ben voilà, c'est le canon, c'est la norme, hein, pour, voilà, c'est la norme, c'est les textes auxquels on va se référer, comment ils ont pu laisser un texte qui, effectivement, dénonce leur, finalement leur rébellion, leur opposition à Dieu. Et alors, l'explication, c'est que, il y a une explication, l'explication, c'est que ce livre de Jonas, il est très très ancien, il était, l'origine inspirée ne souffrait aucun doute, et il avait une tradition ancienne très bien établie, qui donnait ce livre comme inspiré, et il a toujours fait partie du recueil des petits prophètes. Il a toujours fait partie. D'ailleurs, c'est un livre particulier, hein, dans les petits prophètes. Les petits prophètes, ce sont des livres écrits par les prophètes, par des rédacteurs, qui ont rapporté les prophéties de ces prophètes-là. Ici, dans le livre de Jonas, vous n'avez pas de prophétie qui est rapportée de Jonas. Vous avez une histoire, une période de sa vie qui est rapportée. Hein. Et c'est peut-être encore la plus grande prophétie, d'ailleurs. Donc, les savants juifs qui ont réuni ce canon, mais ils ont pris le recueil des petits prophètes et ils l'ont inclus. Mais bon, dans ce recueil-là, il y avait le livre de Jonas. Et donc, il est impossible pour eux de le sortir parce que ça faisait partie d'un recueil. Et donc, on voit bien là que si ce livre se trouve sous nos yeux, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas par la volonté des hommes, mais bien par celle de Dieu. Bien par celle de Dieu. Et voilà. Et comme... comme Paul s'est exclamé, on pourrait, nous aussi, devant cette science de Dieu, devant cette façon de conduire les choses au milieu des hommes. Hein. Si, je vous dis, si c'est des hommes qui avaient dû faire le canon, ce texte-là n'y serait pas. Mais ce texte-là y est, et ça prouve bien que ce ne sont pas des hommes qui ont fait le canon, mais que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et on pourrait s'exclamer, comme avec l'apôtre Paul, hein, en Romains 11, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Voulez-vous vous opposer au plan de Dieu pour le salut du monde? Retenir la miséricorde de Dieu? Le monde veut-il dévoyer le plan du Seigneur? Et j'ai marqué ici, comme ça, un peu poétiquement, pensée vaine s'il en est. Vous savez bien dire ce que ça veut dire, pensée vaine, vaine qui ne nous mènera à rien, parce que le chemin qui nous a conviés à suivre avec lui nous conduira là où il le veut, c'est certain. Et là où il le veut, c'est à la gloire, avec lui. Là où sa miséricorde triomphante aura vaincu tous les obstacles, toutes les résistances, et même celle de ses élus. C'est ce que nous apprend le livre de Jonas. Même celle de ses élus, même si parmi nous il y en a qui résistent, eh bien Dieu va nous emmener tous là où il a voulu, parce que nous avons cru en lui, et ça sera la gloire. Amen, nous voulons prier. Père éternel, oui, nous te rendons grâce. Nous sommes éblouis, émerveillés, Seigneur, devant ta puissance tranquille, Seigneur. Les hommes s'agitent, se rebellent, ont des sentiments, des ressentiments. Seigneur, cet homme, Jonas, était sincère. Il te craignait, il te connaissait ta miséricorde, et pourtant, Et pourtant, il a voulu te garder pour toi, pour lui. Il n'a pas vu, Seigneur, ton amour immense qui amènera Jésus à la croix. Il n'a pas réalisé cela. Et Seigneur, nous pouvons le réaliser parce que nous avons sous nos yeux, Seigneur, la croix. Et non seulement ça, mais le témoignage des frères qui t'ont vu monter au ciel. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta puissance. Comment pouvons-nous douter, Seigneur, que tu reviendras nous chercher pour être avec toi? Nous ne pouvons pas. Seigneur, et nous te prions que tu fortifies notre foi chaque jour. Seigneur, au milieu des frères, tu donnes ce commandement, exhortez-vous les uns les autres. Seigneur, c'est bien que nous en avons besoin, mais nous ne voulons pas être triomphateurs, Seigneur, nous voulons rester humbles, Seigneur. La foi est un don, c'est quelque chose que tu donnes, Seigneur, et que tu nous demandes d'entretenir, Seigneur, par différents conseils. Nous voulons le faire, c'est ce que nous voulons faire, en prêchant la parole, en la reméditant, en la redisant, Seigneur, en nous l'exposant les uns les autres. Père éternel, merci pour ta parole. Bénis-nous ensemble, bénis cette Église. Seigneur, donne-nous de réaliser tout ton amour et toute la miséricorde infinie que tu as pour tous les êtres humains et même tous les êtres qui existent. Seigneur, nous te bénissons, prions de nous conduire dans cette perspective et de bénir notre Église, de nous bénir ensemble. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.